Balado Gazette, la plateforme de diffusion de création radiophonique vous propose Culture 5. Bernard Laurent, c'est à vous.
Il y a loin de la coupe aux lèvres et encore plus loin de l'envie d'écrire un bon éditorial à sa réalisation. Ma colère contre la bêtise humaine ne se calmant pas, malgré le temps qui passe, les sujets à traiter sont légion. Mais aujourd'hui, rien, ou tellement à dire, que je suis à deux doigts de renoncer devant la page blanche. Alors, en désespoir de cause, je me suis penché, tel qu'un, au bord de son puits, sur les écrits de mes petits camarades. Une fois n'est pas coutume. Quelle déception! Bien sûr, les mots de Johan Lefebvre ne manquent pas d'intérêt. Bien sûr, la traite négrière a donné naissance, après 3 siècles d'esclavage, au jazz et à toutes les musiques actuelles. Vous parlez d'une affaire, mais de là à en faire une chronique. Et à propos de chronique, moi, mon colon, celle que je préfère, c'est celle qui serait à écrire. Par exemple, en se posant la question de savoir où se situe le bout du monde. Jean-François Rechner a bien essayé de nous raconter une fable, d'accord, bien écrite, mais franchement, cette histoire d'escargot qui en bave en grimpant un mur, on n'y croit pas vraiment. Hein. C'est pas sérieux comme chronique. Non, moi ce que je préfère, c'est celle qui reste à écrire. Par exemple, une chronique qui nous captive, qui nous fasse oublier que des émigrés plus ou moins irakiens meurent à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, entre deux rangées de barbelés, ou que 3 idéalistes font en ce moment une grève de la faim à Calais pour que la police arrête de détruire les abris de fortune de ces mêmes émigrés. En voilà des sujets intéressants pour l'audimat. Au lieu de ça, Hervé Richoux, avec talent certes, espère nous captiver avec l'ennui. Non. À propos de chronique, moi, mon colon, celle que je préfère, c'est celle qui reste à écrire. Sur le réchauffement climatique, par exemple, et la parfaite connaissance qu'en avaient les industries pétrolières dès les années 70, n'est-ce pas Dominique Scandella ? Mais de là à se demander s'il ne faut pas, je cite, « inventer l'alternative qui permette à l'humanité de poursuivre sa route en toute sérénité », fermez les guillemets, c'est un peu court, ta chronique. Non. Les chroniques que je préfère sont celles qui ne sont pas encore écrites et qu'il faudra lire et entendre, à l'instar du dérèglement climatique, au deuxième degré, au moins. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Culture 5, le magazine de la rédaction de balado-gazette.fr. Johan Lefebvre est un trompettiste, auteur, compositeur, interprète. Il dirige l'établissement de l'enseignement artistique du pays de Cran, dans le beau département de la Mayenne. Le 14 octobre dernier, lors de sa première chronique, il avait dit en substance « Le jazz est une musique universelle qui est partie d'Afrique et qui est à l'origine de toutes les musiques actuelles. » Eh bien, dans « Capsule de jazz », Johan Lefebvre prolonge son propos en commençant par un étonnement.
C'est surprenant que lorsqu'un homme blanc déporte tout un peuple en leur confisquant leurs instruments, leurs vêtements, leur filiation, puisque les hommes étaient séparés des femmes et des enfants, comment ils ont pu oublier, en les rendant esclaves, que les gens arrivaient avec leur culture, parce que la culture, c'est ce qui reste quand on est tout nu. Donc comment c'est possible que cette musique africaine ait engendré toutes ces autres musiques sur un autre territoire qui ne faisait pas résonner la musique pareille, que ces hommes puissent aller à l'église écouter des musiques de messe, puissent servir dans des salons et écouter Chopin ou les grands compositeurs de l'époque, Schubert, Schumann, etc., Brahms, toutes ces musiques-là, ça a fait un grand melting pot et ça a permis peu à peu, sur plusieurs siècles, de modifier cette musique africaine et d'inventer des nouvelles musiques qui ne sont finalement que des métissages. Et ça, c'est quand même intéressant à notre époque de se rendre compte que les Africains n'arrivaient pas sans rien. sur le continent américain, mais ils arrivaient avec leur propre culture et cette musique complètement introduite dans la société en Afrique.
Toute personne transporte sa culture, même s'il est tout nu.
Exactement, exactement. Et c'est d'autant plus important quand la musique, elle est orale. Alors que là, finalement, les chants africains étaient internes à tous ces hommes qui chantaient à plusieurs moments de la journée et qui jouaient des instruments de percussion et qui utilisaient des gammes universelles comme la gamme pentatonique qu'on retrouve dans plein de pays.
Une explication, pentatonique.
Alors, pentatonique, c'est une gamme à 5 sons.
Vous pourriez nous donner un exemple ?
Alors ça, c'est la pentatonique mineure.
Et une majeure ?
C'est-à-dire que la troisième note, elle est plus ou moins haute d'un demi-ton. Quand elle est plus basse, c'est la gamme pentatonique mineure. Quand elle est plus haute, c'est la gamme pentatonique majeure.
On rappelle ce qu'est une gamme heptatonique.
On peut la chanter. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Voilà. Quand elle est majeure. Et pareil, quand elle est mineure. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Une seule note change, la troisième note, la tierce.
Et tout ça, ça fait du jazz.
Eh oui, on n'a pas parlé d'une autre donnée importante dans cette musique africaine. C'est le rythme et le tempo. Puisque ces musiques qui étaient souvent des mélodies, des monodies, étaient accompagnées d'un rythme très, 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 très élaboré grâce à ce sens rythmique qu'on retrouve en Afrique.
Un exemple ? Ça, c'est ce qu'on pouvait entendre de la part des Africains.
Exactement.
Et alors maintenant, de la part des Blancs, des Européens.
C'était plutôt des rythmes binaires en Europe.
Est-ce que vous pourriez passer de l'un à l'autre ? On a traversé l'Atlantique.
Oui, ça.
On vient de faire.
Exactement. Exactement.
Merci Johan, à très bientôt. Et vous nous parlerez de quoi la prochaine fois ?
Bah, j'aimerais bien commencer à parler plus précisément des musiques qui se mélangent. Et on pourra commencer avec Miles Davis des années 60 et son Sketches of Spain.
À très vite.
Au revoir.
Concerto d'Aranjuez, on en saura plus la prochaine fois. En fond sonore de votre capsule de jazz, il y avait Driss, une de vos compositions. Le lien avec le site de Johan Lefebvre est à retrouver sur balado-gazette.fr. Et le moment est venu d'écouter la chronique de Dominique Scandella. Mais tout d'abord, j'aimerais vous faire la lecture d'un extrait d'un article paru dans le journal Le Monde le 21 octobre dernier. Je cite « Une étude publiée par deux historiens et un sociologue dans la revue scientifique Global Environmental Change » mercredi 20 octobre, accable le fleuron français des énergies fossiles Total Energy. Elle montre que la major pétrolière était au courant de l'impact potentiellement catastrophique de ses produits sur le changement climatique dès 1971, soit bien avant la connaissance du grand public sur le sujet. Après en avoir acquis la certitude, l'entreprise s'est malgré tout efforcée durant de longues années de semer le doute sur la réalité du changement climatique et de freiner l'action. » Fin de citation. Dominique, c'est à vous.
Cette information n'est à vrai dire pas une révélation. Il est désormais prouvé que toutes les majeures pétrolières et toutes les entreprises contribuant au réchauffement climatique ont agi de même. Dans le magazine scientifique La Recherche figurent depuis les années 80 de nombreux articles alarmants sur le sujet. Par exemple, un numéro spécial de mai 92 sur l'effet de serre. On avait déjà tous les éléments de preuve et on savait qu'il fallait agir vite pour éviter une catastrophe planétaire. La communauté scientifique était unanime à tirer la sonnette d'alarme. La fabrication du doute et la controverse ont été créées de toutes pièces par des pseudo-experts grassement rémunérés par les multinationales. En fait, dans les cercles dirigeants, qu'ils soient économiques ou politiques, tout le monde était informé des risques. Ils ont évalué les possibilités d'action et en ont conclu que finalement, il reviendrait moins cher de réparer plutôt que de prévenir, sachant que de toute façon, les pays les plus vulnérables sont ceux du Sud. D'autre part, du côté de ceux qui dirigent l'économie de la planète, on n'ignore pas qu'une catastrophe est positive en termes de PIB. La reconstruction et l'assistance aux sinistrés dopent la croissance. En toute connaissance de cause, en tout cynisme, pourrait-on dire, les leaders des pays de l'OCDE ont décidé que la bonne marche de l'économie était plus importante que la préservation d'un monde vivable pour l'ensemble de l'humanité. La responsabilité des médias touchant le grand public est également écrasante. Ils ont fait le choix, pour l'audience et parce que ça coûte moins cher, de mettre en scène des débats plutôt que de diffuser de l'information objective et des reportages de vulgarisation scientifique. Ces débats sont conçus comme des matchs opposant des adversaires de valeurs supposées égales. Or, dans ce cas précis, il y avait d'un côté la communauté des chercheurs spécialisés dans les questions climatiques et de l'autre, de puissants lobbies et leurs mercenaires rompus à l'art de la dialectique, du mensonge et de la mauvaise foi. La faute inexcusable de ces médias, appartenant pour la plupart à des grandes fortunes, a été de ne pas pondérer la crédibilité de ces protagonistes. On a donc laissé se créer cette criminelle entreprise du doute, car à l'évidence, cela servait de puissants intérêts. Plusieurs décennies ont donc été perdues, ce qui rend l'action plus difficile. Mais en réalité, aujourd'hui, aucune volonté politique forte ne se dessine. Les mesures proposées sont ridiculement insignifiantes comparées à ce qu'il serait efficace de faire. La fuite en avant technologique est une illusion d'apprenti sorcier et personne ne veut admettre l'évidence. Il faut radicalement changer non seulement nos modes de vie, mais le fonctionnement global de nos économies. L'ultime question qui se pose est de savoir si un changement de trajectoire est possible dans le cadre de notre système démocratique qui suppose le consentement à court terme de tous les acteurs, c'est-à-dire du peuple dans sa majorité, mais aussi et surtout de ceux qui possèdent le vrai pouvoir, celui de l'argent. Si la démocratie telle qu'elle fonctionne actuellement ne permet pas le changement radical qui s'impose, il reste donc à inventer l'alternative qui permette à l'humanité de poursuivre sa route en toute sérénité. À ce jour, rien n'est impossible, mais il faut agir vite et sans appréhension. L'historien Fernand Braudel l'affirmait déjà en 1979. Une crise de structure ne peut être résolue que par démolition et reconstruction structurelle.
Approche-toi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y'avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y'avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers. Des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées. Et tous les éléments se sont vus maîtriser. En deux temps, trois mouvements, l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire.
Mickey 3D respire. Et maintenant partageons l'ennui d'Hervé Richoux.
Il y a des films dont le titre est sinon une insulte, du moins une provocation au marketing. Acheter un billet pour aller voir un film, rien sur Robert, un long métrage de Pascal Bonitzer sélectionné à Cannes en 1999, censé nous apprendre quoi ? Rien. Du moins, rien sur Robert. Autre film... L'ennui. Film réalisé en 1998 par Cédric Kahn, adapté d'un roman d'Alberto Moravia, connu des érudits pour avoir écrit Le Mépris, adapté en 1963 par le redoutable Jean-Luc Godard, film dans lequel Brigitte Bardot pose, nue, et à Michel Piccoli cette question de savoir si... Elle a de belles fesses. Si d'aventure le film est programmé à nouveau un soir sur le petit écran, je ne sais si vous vous ennuirez, mais vous risquez, pauvres téléspectateurs, de vous farcir plus de 60 spots publicitaires. Ces pubs, franchement, sont plus mortifères que la lecture d'un roman de Zeus Loubeck, que la recherche désespérée du temps perdu, la messe en latin sans Brassens, le tirage du loto quand on ne joue pas, la météo des départements d'outre-mer quand on a peur de l'avion, et la rediffusion d'Autant en emporte-le-vent en version originale quand on ne maîtrise pas l'anglais et que la fonction sous-titre reste inéluctablement inopérante. On peut trouver le temps long, se faire suer, s'enquiquiner, se barber, se morfondre, s'embêter, s'impatienter, se languir comme la chèvre de M. Seguin, regarder dans la salle d'attente la grande aiguille peinée à remonter si lentement du 6 jusqu'au 12. Bien des sujets d'ennui vous poussent à soupirer, comme se farcir tout un dimanche la visite de la belle-mère, la correction des copies pour un professeur, d'un manuscrit pour le correcteur inculte d'une maison d'édition dont on taira le nom, la comptabilité que l'on doit mettre à jour pour le 15 mars, à 6 jours de l'équinoxe, le rangement des fiches de cuisine et celui des livres de la bibliothèque par ordre alphabétique. À la prochaine occasion où vous rongerez votre frein, voici une occupation. Conjuguez donc le verbe « se fader ». Je me fade. Chez le médecin, la lecture des magazines. Tu te fades encore une fois le tri sélectif. Il se fade le ménage, la lessive et le repassage. Se fader, c'est enjoliver l'ennui. Même au subjonctif, fadasse se couvre d'un charme suranné qui permet de tout supporter avec élégance, un peu comme le panache. Chasse la médiocrité, comme la phallocratie chasse le machisme, peut-être tout simplement parce que c'est un mot féminin.
Je mesure aujourd'hui combien favorisé j'étais quand je travaillais chez Petit Louis. habillé en cours sur scène dans l'entrepôt modèle, je participais à l'expansion. À 5 heures du matin, levé comme à l'aveugle, se lever, ravaler son café, s'enfoncer dans le noir, prendre le bus d'assaut, piétiner dans le métro, c'était le pied. Anastasie, l'ennui m'anesthésie. S'engouffrer au vestiaire, cavaler pour pointer, enlever sa casquette devant le chef. Baigner toute la journée dans l'huile polluée, faire tourner la machine, quelle santé. Surtout ne pas parler et ne pas trop rêver, c'est comme ça que les accidents arrivent. Et puis le soir venu, repartir dans l'autre sens, vers le même enthousiasme en voyage. Anastasie, l'ennui m'anesthésie. Heureusement un jour, sur pont de Sèvres-Montreuil, dans le bain de vapeur quotidien, dans la demi-conscience, au hasard d'un chaos, j'ai senti dans mon dos tête de saint. Je me suis retourné, je t'ai bien regardé, et j'ai mis mes deux mains sur tes seins. Tu m'as bien regardé, et tu n'as pas bronché, bien mieux, tu as souri, et j'ai dit, Anastasie, l'ennui m'anesthésie. Tu t'appelais Ernestine, ou peut-être Norine, mais moi je préfère Anastasie. On a été chez toi, ça a duré des mois, j'ai oublié d'aller chez petit Louis. Qu'est-ce qu'on peut voyager dans une petite carrée? On a été partout où c'est bon. Et puis un soir venu pour éviter l'ennui, on a décidé de se séparer. Anastasie, l'ennui m'anesthésie. La morale de ce tango, tout à fait utopique, c'est que c'est pas interdit de rêver. C'est que si tous les prolos, au lieu d'aller pointer, décidaient un jour de s'arrêter et d'aller prendre leurs pieds où ce que ça leur plairait, ça serait bien moins polluant que l'ennui. Y aurait plus de gars comme moi, comme j'étais autrefois, qui se répétaient tout le temps pour tuer le temps. Anastasie, l'ennui m'anesthésie.
C'était le tango de l'ennui, interprété par Sanseverino et créé, on s'en souvient, par François Béranger. On va se quitter avec Jean-François Rechner qui nous emmène en voyage à l'autre bout du monde.
Dans notre jardin, une mare, en bas, abrite un peuple, protège ses ébats. Chaque année, une famille de colverts y niche au printemps, la quitte pour l'hiver. Quand ces palmipèdes arrivent d'Afrique, autant dire l'autre bout de la terre, les autres, autour d'eux, en groupe se serrent, les pressent de questions, veulent qu'on leur explique. Tous les sujets se voient abordés. Comment peut-on vivre loin du visible? Danger et distance passent au crible. Chaque année, les canards sont débordés. Eux, qui s'arrêtaient juste pour pondre, doivent sans cesse trouver quoi répondre. Soudain, l'attroupement se déplace. D'autres grands voyageurs débarquent. L'arrivée des papillons monarques provoque un branle-bas sur la place. À nouveau, de partout, les questions fusent. Des miraculeux hyménoptères, le charme encore une fois opère sur la foule à l'empathie profuse. Des interrogations variées que pose le petit peuple de l'onde, une ressurgit, toujours contrariée. C'est où l'autre bout du monde? Cette demande, qui pourtant appelle une réponse précise, n'obtient que répliques indécises et demeure l'énigme les agitant. Pour les Inuits, l'inaccessible côté se trouve juste là, à une portée de flèche, interdit d'y aller. Leur vie s'en trouve désolée. L'autre côté, selon d'autres, signe le point opposé au nôtre. Si l'on croit certains auteurs, la Terre ronde tourne sur elle-même. Pour en faire le tour, à leur juger, il suffit de ne pas bouger. D'autres idées encore plus complexes laissent les plus curieux fort perplexes. Dans ce peuple de la Barbotière, un escargot, courageux et fier, décide qu'il lui faut aller voir, plutôt qu'entendre les dire et les croire. Il va, lui, petit gastéropode, explorer, découvrir les antipodes. Parti sur le champ, suant et bavant, il traverse notre pré, bravant les dangers. L'été arrive, notre hélix, presque sur l'autre rive, poursuit sa route en ligne droite, coquille sèche et pieds moites. Toujours, il espère les orages. Les périodes sèches le trouvent en nage. Il lui faut échapper aux prédateurs, hérissons, taupes, gallinacés et autres. Il en a parfois assez de se cacher, frissonner de peur. Avec pissenlit, ortie, lierre, il se console, se sustente, sourit, remonte la pente, poursuit son intention première. Un matin, au pied de notre mur, il entame l'ascension verticale de cette paroi inamicale. Pas une plainte, pas un murmure. Jour après jour, il s'élève, se hisse, rampant, vers le sommet se glisse. Une nuit, totalement épuisé, il s'arrête. Eureka, il a compris. L'idée pénètre son esprit, puis commence à s'amenuiser. Stop. Son grand voyage finit là. Plus un pas, il est vraiment trop là. L'autre bout du monde, son appât, c'est là d'où l'on ne revient pas.
Merci Jean-François et à très vite. On va pas tarder à se quitter. Ce que vous entendez là, c'est Blue Bolero d'Abdullah Ibrahim. Un merveilleux musicien, c'est extrait de son album African Magic. Il n'y aura pas de Culture 5 la semaine prochaine, nous faisons relâche. On se retrouvera donc le 19 novembre prochain. D'ici là, rendez-vous sur balado-gazette.fr, vous y redécouvrirez tous les trésors que nous y avons amassés. Passez un bon week-end, une bonne semaine, et puis de toute façon, à très vite. Ciao.